Bonjour.
Bonjour.
Pour donner une suite à la série sur démasquer les mécanismes de la violence, on nous pose souvent la question, qu'est-ce que vous avez retenu de toutes les recherches que vous avez faites à ce sujet et de toutes les rencontres inspirantes qui vous ont donné des réponses aussi. Et là, on a réussi enfin à modéliser en quelque sorte des étapes dans le processus qu'on a rencontré plusieurs fois et qui se présentent parfois un peu inévitablement à un moment ou à un autre dans les collectifs et qui sont les mécanismes du conflit.
Oui, alors en sachant que l'idée, ça va pas être de comprendre les causes, enfin tout un volet du sens que ça a, mais vraiment juste la mécanique pour pouvoir la reconnaître. Parce que sinon, il y a tout un pan de ce qu'on nous a transmis et de ce qu'on a compris qui n'apparaîtra pas là-dedans. C'est juste vraiment que vous puissiez vous situer si à un moment donné vous êtes pris vous-même dans un mécanisme. Que vous puissiez tout de suite vous dire, ah bah tiens, là je suis à l'étape 2 du récit par exemple, ou enfin tout ce qu'on va vous transmettre maintenant, qui est le résumé, un petit peu la synthèse de tout ce qu'on nous a transmis nous et dont on a fait vraiment l'expérience à travers notre propre histoire.
On a identifié 7 étapes du conflit. Alors on parle d'un conflit qui s'enlise, hein, qui est un conflit sans issue, sans solution, un conflit qui va prendre beaucoup d'énergie au groupe en général. Donc c'est de ce type de conflit-là qu'on parle. C'est pas le conflit où il s'agit de construire à partir de désaccords et donc où assez rapidement, avec de bons outils, on arrive à être très content d'avoir trouvé des solutions et même de continuer à collaborer.
Oui, c'est pas les désaccords féconds de Patrick Vivray, par exemple. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la pathologie ordinaire d'un groupe qui vit les affres de la problématique. Et vous savez que nous, c'est aussi une façon pour nous d'aller au bout d'un processus, ne serait-ce que de compréhension et de guérison, parce que on n'a pas vocation non plus à passer notre vie à étudier les conflits, hein. C'est juste que là, c'est une façon de boucler la boucle. Pour vraiment nous permettre aussi, et vous permettre par la même occasion, de mettre de la lumière là-dessus, en perspective de sortir de là et passer à autre chose.
Et vous nous avez peut-être déjà entendu dire qu'on ne pratique pas l'exclusion et on n'a pas de processus d'exclusion. On l'a dit dans d'autres podcasts. Et c'est aussi une réponse à ça dans le sens où le processus qu'on va vous décrire maintenant, en cette étape, il mène le plus souvent à l'exclusion. Donc on va aussi s'attarder à décrire qu'est-ce que c'est qu'une exclusion, à la définir et à travers ces 7 étapes.
En fait, ouais, ce que j'ai envie de rajouter là, c'est que pour avoir nous-mêmes été victimes d'une exclusion, alors qu'on n'a pas fait de choses répréhensibles par la loi, par exemple, nous, la seule exclusion qu'on pourrait imaginer ici dans l'Oasis de Poulard, ce serait une exclusion qui serait motivée par des faits graves, mais graves dans le sens
Où il y a du
pénal, où
préjudice, oui.
pénal, c'est vraiment pénal, c'est-à-dire que là, je sais pas, il y a eu
Des vols.
des vols, des viols, enfin des atteintes à l'intégrité des gens, enfin des choses qui sont déjà de toute façon punies par la société telle qu'elle est aujourd'hui.
Ou des addictions ingérables, des choses comme ça, des choses qui nécessiteraient des compétences que nous n'avons pas au
Voilà,
sein
c'est
de
ça. Donc
l'Oasis.
là, si vous voulez, on est OK là-dessus, c'est-à-dire que on va pas se substituer vraiment à ce qui existe déjà. En revanche, là où nous, on s'interdit ici, et c'est une des grandes leçons de notre mésaventure ardéchoise, c'est vraiment de se dire, mais l'exclusion pour des motifs qui seraient émotionnels, qui seraient relationnels, c'est quelque chose complètement immature aujourd'hui pour nous. C'est-à-dire, c'est vraiment la preuve qu'un groupe est complètement la proie de ces problématiques non résolues, mais qui sont des problématiques pathologiques et qui n'ont rien à faire dans le comment dirais-je dans le schéma d'une évolution de la société. Parce que la société, si on veut qu'elle évolue, elle est au contraire inclusive. C'est-à-dire, on va essayer de créer du conflit. Et là, on rejoint ce que disait Patrick Vivray, les désaccords féconds. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord, on est en conflit, très bien, même Rojman nous en a parlé dans ses vidéos, on sort de la violence pour entrer dans le conflit. Et là, ça devient vraiment quelque chose de très très utile pour approfondir la connaissance de soi, pour approfondir la connaissance de l'autre, et créer réellement des conditions d'une paix durable au niveau social.
D'autant plus qu'on s'est fait la réflexion de se dire un maire d'un village, par exemple, ou d'un petit hameau, et il n'a pas la possibilité d'exclure un villageois, en dehors des raisons qu'on a déjà citées, qui sont des raisons extrêmement graves. Donc, est-ce que les oasis qui ont des ambitions relationnelles et sociales hautes ne doivent pas se hisser au moins à la hauteur des contraintes d'un maire de village. Enfin, ça c'est une des questions qu'on s'est posées en se disant ben, qu'est-ce qu'on crée relationnellement et socialement quand on se permet de dire à quelqu'un ben, toi, tu n'es pas à ta place ici et tu dois t'en aller parce que notre petit groupe le décide.
C'est ça. Et ce qui n'enlève en rien le fait que nous sommes une oasis avec un certain nombre de règles dont nous sommes dotés pour incarner certaines valeurs. Et évidemment, si des personnes ne respectaient pas ces règles, on les rappellerait complètement à leurs obligations, à leurs devoirs auxquels elles ont consenti de manière libre et informée. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que si vraiment les personnes ne respectent pas les règles qu'on a mises en œuvre, qu'on a mises en place, etc., il faut qu'en interne, on soit suffisamment solide pour que les personnes d'elles-mêmes voient que leur présence n'est absolument plus du tout possible et qu'elles décident par elles-mêmes que finalement la vie qu'elles ont à l'Oasis n'est pas leur vie, leur choix de vie ne sont pas compatibles avec ce que propose l'Oasis. Et que du coup le départ, c'est pas un bannissement, c'est un choix. C'est vraiment la personne qui dit non mais c'est bon, vous avez raison, j'ai rien à faire ici. Et là c'est pas pareil. Et ça c'est vraiment le job des personnes qui vivent en Oasis, d'être en cohésion par rapport à un certain nombre de règles, de valeurs et autres, qui font que celles et ceux qui s'y retrouvent tiennent le cadre qu'elles ont envie de manifester, et ceux qui s'y retrouvent plus décident de s'en aller.
Donc les personnes qui sont responsables de cette harmonie, c'est vraiment l'ensemble du collectif à travers une bonne gouvernance. Mais bon, on va pas développer ce point-là aujourd'hui, mais plutôt revenir à nos 7 étapes pour pouvoir vous les décrire et que vous puissiez vous-même faire l'expérience de les repérer dans votre entourage si vous vivez dans un collectif. Mais aussi, ce sont des étapes qui sont aussi valables à observer dans la vie plus ordinaire de l'entreprise ou autre.
La première étape qu'on a identifiée comme étant vraiment le démarrage de cette histoire de conflit qui va vraiment mal finir, on va dire, dans notre regard en tout cas, c'est vraiment l'étape des apartés, c'est-à-dire des discussions informelles qui vont commencer à exister, qui tournent toujours autour du même sujet, c'est-à-dire une personne ou deux personnes ou trois personnes, en tout cas quelque chose qui va se focaliser dans des discussions informelles sur du mécontentement, de l'émotionnel, mais qui est toujours ciblé sur une même attention sur en général une, deux ou trois personnes, quoi. Voilà.
Ce qui est important, c'est que ces discussions-là, très souvent, elles ont lieu en dehors des réunions prévues pour se concerter. Donc, c'est vraiment un petit noyau qui commence à se constituer, généralement autour d'un ou quelques leaders d'opinion. Des gens qui vont apporter avec un certain charisme et une certaine force une vision de la situation. Et souvent, ce sont des échanges qui sont chargés émotionnellement.
Chargé en émotion, en symbolique souvent. C'est-à-dire qu'on va avoir, on va retrouver les archétypes d'injustice, de souffrance,
Des questions de
des
pouvoir.
questions de pouvoir, voilà, qui tournent vraiment sur ces enjeux-là, où très très souvent les interlocuteurs vont s'associer en fait potentiellement dans un climat comme ça où on se conforte en se disant ah bah oui moi aussi finalement je vois que ce que dit cette personne, je peux le reconnaître aussi et ça me pose problème. Et du coup, le problème commence à prendre corps.
Ça peut être assez politique aussi. C'est-à-dire, un tel fait comme ça ou a telle pratique, mais moi je ne suis pas d'accord parce que ça ne rejoint pas mes valeurs ou mes croyances politiques ou éthiques. Enfin voilà, ça va être des questions de cet ordre-là. Assez vite, les protagonistes qui se retrouvent un peu régulièrement pour échanger vont bâtir l'étape 2, qui est celle du récit.
C'est ça. Donc après, on commence à observer. Donc une fois que l'étape 1 des apartés a suffisamment été nourrie, Alors, on va commencer à s'entendre sur le storytelling un petit peu, hein, l'histoire qu'on va se raconter. Alors là, cette étape-là, elle est toujours intéressante parce qu'on commence à voir apparaître, comme d'ailleurs dans les mass médias ou autres, hein, qui veulent nous faire gober des fois des récits comme ça, ce qu'on appelle des réalités alternatives, hein, c'est-à-dire que ce sont des affirmations qui ne sont pas forcément vérifiées ni vérifiables, ou des interprétations, ou ce qu'on appelle aussi des procès d'intention, c'est-à-dire qu'on va estimer que l'autre, notamment la personne qu'on va accuser de tous les maux, ses intentions sont malveillantes, etc. On ne lui pose absolument pas la question à ce moment-là, c'est-à-dire que c'est toujours des apartés, ça, hein, c'est toujours dans le registre de l'aparté où le récit se construit dans une espèce de monde occulte, comme ça, hein, qui n'est pas du tout formel. Et dans lequel effectivement là ben, on peut y aller quoi, on peut charger la mule du mécontentement, des jugements négatifs, etc., qui permettent à un moment donné de s'entendre effectivement à plusieurs sur une histoire qu'on va valider collectivement avec ce petit groupe.
Ça. Donc on va créer du consensus parmi l'ensemble des interlocuteurs et également des formules ou des formulations collectives.
Ah oui, alors ça c'est tout à fait édifiant, où on va retrouver dans la bouche des personnes les mêmes phrases.
C'est ça.
C'est des éléments de langage en fait que les personnes reprennent à leur compte, mais de manière totalement inconsciente, mais en même temps qu'elles sont actrices de ce phénomène comportemental. Nous, pour l'avoir vécu, on trouve ça incroyablement saisissant de voir des phrases assez longues, qui peuvent être très structurées, sortir de la bouche de personnes. À des semaines d'intervalle, avec des situations complètement différentes, mais en fait, les mots sont les mêmes, les phrases sont les mêmes, les détails d'un récit qui n'existe pas sont les mêmes. On a entendu des choses sur ce qu'on avait été supposé faire ou dire ou quoi, et là on se dit, waouh, ça veut
Oui.
dire vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est structuré, qui s'est construit dans un récit qui a été co-construit à plusieurs.
Et ce récit pourrait être étayé par des exemples aussi, qui pourraient peut-être paraître insignifiants, mais qui, en fait, intégrés dans un récit, prennent beaucoup de poids. Comme par exemple, oui, mais tu te rends compte, un tel, à ce moment-là, son attitude, ça a été de faire ça, ou ça a été de dire ça. Et c'est décontextualisé, mais c'est amené comme un argument qui vient renforcer le récit. L'étape 3, qui découle directement de l'étape 2, celle du récit, c'est l'étape de la victimisation ou de la construction du triangle dramatique. À ce moment-là, ça fait partie du récit, c'est-à-dire que les personnages sont positionnés avec ses victimes, les persécuteurs ou les bourreaux et les sauveurs, parce qu'il y a vraiment comme un départ en croisade pour essayer de venir à bout de ces tensions qui émergent dans le groupe. Donc il y a aussi les sauveurs qui se positionnent dans le récit.
Donc on voit bien qu'on est parti de conversations informelles qui ont fait l'objet d'apartés, qui se sont intensifiées, qui se sont organisées en récits. Et une fois que le récit est bien structuré en se disant, ben voilà, nous évidemment on est les bons et il y a des méchants, hein, parce qu'un récit il raconte ça, hein, il y a cette histoire de dualité qui revient, ben forcément les méchants ils causent des préjudices à qui? À nous. À nous en tant que personnes qui justement nous plaignons, sommes mécontents, sommes malheureux. Et donc du coup, il y a une forme de victimisation dans la situation qui crée ce que tu appelles le triangle dramatique, hein, où effectivement, là, à ce moment-là, sur l'échiquier, on a au moins le triptyque victime d'abord, donc le méchant qui crée la victime, hein, et des gens qui vont se dire non mais on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible, il faut trouver une solution. Donc eux, ils vont endosser plutôt leur cape de Superman, de sauveur, de gens qui vont remédier à ce problème. Voilà.
Alors très souvent, le préjudice n'est pas décrit que comme individuel ou personnel, mais comme un préjudice collectif. Donc il y a aussi l'émergence d'un ego collectif, comme un personnage collectif qui apparaît. Et ça donne toute la force et le poids au conflit. Ça soutient le fait que le conflit s'enlise, parce qu'il devient très complexe en fait.
Et puis surtout, il conforte complètement le groupe dans le principe de ben, on a raison. C'est-à-dire
On est légitime.
on est légitime, on est plusieurs, on est engagé dans le projet, etc. Donc on a raison. Et c'est vraiment cette histoire, en fait, où on va le voir dans les prochaines étapes. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce mécanisme-là, dès le départ, il y a un vice dans la façon d'aborder la problématique. C'est-à-dire que là, on parle d'un mécanisme hyper violent d'un conflit sans issue versus un conflit fécond qui peut amener des choses très constructives dans un groupe, hein. Là, on est vraiment dans la partie la plus sombre de ce que peut être un conflit. C'est-à-dire, il n'y a aucune intention, consciente ou inconsciente, de sortir de là par le haut. Aucune. Même si c'est dit, d'ailleurs, parce qu'on a souvent entendu dire non, mais on va sortir de là, on va transformer ça par le haut, etc. En fait, non. C'est-à-dire que on a vraiment. Dès qu'on rentre dans la victimisation, dans un récit collectif, etc., c'est pas vrai qu'on veut en sortir.
Alors, je modérerai un peu, Laurent. Je pense qu'ils vont pouvoir se dire, mais si, moi, j'avais carrément l'intention d'en sortir. Je suis contre le conflit, je suis contre la guerre.
Eh oui, mais enfin,
Donc,
dans les faits, alors attends, Sophie, c'est intéressant parce que,
et c'est pour ça
ah
qu'on
non,
arrive à cette étape des
mais oui, mais
négociations.
justement.
Et c'est assez pervers, mais
Mais
c'est.
c'est super, c'est pour ça que je parle de vice. C'est hyper pervers. C'est-à-dire qu'en fait, parce que j'ai des valeurs très hautes, parce que moi, justement, je suis très spirituel, je suis très engagé depuis de nombreuses
Oui.
années dans la non-violence, etc. Je ne suis pas de cela. Je ne suis pas de ces personnes qui. Et ça, on rejoint Charles Rojman, qui, pour moi, vraiment était très, très, très fin dans cette analyse de l'idéalisation de soi-même et de l'idéalisation d'un groupe, hein. C'est-à-dire que nous, on a compris des choses, nous, on a des valeurs, nous, on est des personnes bonnes, hein, qui, en
On est du
fait,
côté du bien.
on est du côté du bien, on a raison. Donc, si tu veux, justement, c'est d'autant plus pervers que c'est pour ça qu'on ne va pas juger les personnes, on va regarder le mécanisme. Et quand on voit que ça commence par les apartés, ça se suit par un récit et ça engendre une forme de victimisation d'un groupe, d'une personne, mais d'un groupe surtout. Là, on est dans une mécanique. Et cette mécanique-là, elle est constitutive d'une perversion, même si les personnes individuellement ne s'en rendent pas compte, en fait. Et c'est là où je te dis qu'il y a un vice là-dedans, parce que évidemment, les personnes, tu les prends individuellement, c'est vrai qu'elles ont des valeurs, c'est vrai que elles sont engagées souvent, elles sont impliquées, et on peut pas leur dire, on peut pas leur reprocher, elles sont vraiment impliquées sincèrement dans des schémas de non-violence, etc. Pour autant, elles sont prises dans la mécanique.
Complètement.
Et ça finit, enfin, on va le voir dans les étapes, mais en tout cas, là, on est dans la troisième étape du triangle dramatique de la victimisation, où on a posé les victimes, les bourreaux et les sauveurs. Et quand on va rentrer dans l'étape 4, c'est là où on vient dans les négociations. Donc l'étape 4, c'est les négociations, c'est-à-dire qu'on va essayer justement de créer des espaces de médiation, ou
De cercles
de... C'est
restauratifs.
ça. On va essayer de trouver des médiateurs, souvent extérieurs, pour qu'il y ait une certaine neutralité justement dans le processus, qui devrait, dans l'intention, aboutir à une pacification, une résolution, une prise de conscience, etc. Sauf que, et ça, nous, on l'a vu, pas que chez nous, hein, pas que dans notre histoire, comme dès le départ, il y a un vice à cet endroit-là, on instrumentalise les outils que sont les cercles restauratifs, les médiations CNV ou pas
Les
CNV
sacs
ou
de
autres,
parole.
les cercles de parole et autres. En fait, on les instrumentalise pour dire, mais c'est même inconscient, hein. Quand on arrive à la phase négociation, alors ce qui est intéressant dans cette phase-là, après le triangle dramatique, c'est que dans la négociation, on va tout de suite voir si vraiment les intentions sont sincères ou pas. Et là, ça va être le juge de paix. C'est-à-dire que là, soit les négociations, évidemment, et c'est ce que nous, on a vu dans la mécanique, sont complètement, mais ultra douloureuses et surtout infécondes, c'est-à-dire qu'elles n'aboutissent à rien, en fait. Les gens repartent avec leur paquet, ils repartent avec un mécontentement, ils repartent avec... Ou alors, il y a eu des moments de catharsis collective où on se retrouve à s'en prendre, parce que selon les processus à l'œuvre, hein, dans les médiations ou les cercles restauratifs, on peut se dire des choses très violentes, mais ça fait partie du processus et tout ça. On dit que c'est une guérison et tout. Sauf qu'en fait, ça ne règle, en tout cas dans l'expérience de ce mécanisme sans issue, ça ne règle rien. On va poser vraiment des ressources pour aller vers un mieux qui, en fait, n'est pas obtenu. Et ça, cette partie-là, négociation, elle peut prendre du temps en plus et des ressources. Alors, c'est là où le mécanisme, il est pervers, c'est qu'on va payer des gens. On va prendre du temps, des week-ends entiers sur des cercles de parole où on va vraiment donner de sa personne, etc., pour aboutir à rien, zéro résultat. finalement, ils veulent rien entendre, ça marche pas, etc., etc. Et du coup,
Oui, parce que ça repose sur quelque chose qui n'est pas vivant. C'est-à-dire, c'est comme si les conclusions, elles étaient écrites d'avance. Parce que dès la première étape, celle des apartés, les personnes qui impulsent tout ce processus qui va s'enchaîner, ont déjà quelque part clivé dans la dualité le bien et le mal, les bonnes personnes et les mauvaises personnes, les bonnes attitudes, les mauvaises attitudes, les bonnes postures, les bonnes croyances et les mauvaises croyances. Et en fait, tout part de là. Et tout le reste, ce n'est qu'un long effort de démonstration que j'ai raison. Et en fait, quand les parties arrivent dans les médiations ou dans les cercles restauratifs, etc., avec la conviction que leur posture est juste et qu'elles ont raison, ce qui sur un plan est vrai et ne devrait pas nous empêcher de coopérer, sur un autre plan, c'est complètement stérile. Parce qu'il y a que de l'agressivité ressentie là-dedans parce que, et un sentiment de ne pas être entendu, que c'est un dialogue de sourds en fait.
c'est ça, il y a zéro place pour l'autre, en fait, qui est en face, et qui, du coup, pourrait poser lui-même légitimement sa propre perception des choses, mais à cet endroit-là, il n'y a pas droit de citer. Parce qu'en fait, on va être vraiment dans des registres très souvent extrêmement émotionnels. Hein, c'est un marqueur, quand même, hein, de quelque chose qui va ne pas être constructif. C'est que dans la partie 4 des négociations, donc qu'on va trouver dans les médiations, comme on a dit, les cercles restauratifs ou les cercles de parole et autres, hein, c'est une façon de négocier des choses, de parler avec d'autres personnes pour essayer de s'entendre. En fait, dès le départ, la question est pliée d'avance. Donc,
Et c'est aussi parce qu'il y a une confusion en termes du lieu de résolution de la chose à résoudre, du lieu et aussi de la nature de cette chose à résoudre. Parce que les personnes qui vont s'agréger autour d'un conflit ont très souvent toutes des blessures au même endroit ou dans des endroits complémentaires. Et ça, c'est la réalité de chacun. Et nous-mêmes, on est allés vivre des aventures collectives avec nos blessures et avec nos histoires. Et ça c'est un peu incontestable et c'est un peu indiscutable et c'est tout à fait légitime. Mais c'est qu'il y a erreur sur le lieu et les moyens pour résoudre ces blessures, résoudre ces souffrances. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le fait que dans les espaces de négociation, ce qui fait dialogue de sourds, c'est que chacun est en train de parler de lui et de son histoire et d'essayer de faire valoir des besoins qui lui appartiennent, avec l'attente que l'autre le comprenne ou nourrisse ces besoins-là, alors qu'en fait, ce n'est pas un espace légitime pour ça.
ah oui, mais là, alors là, c'est là où il y a le gros malentendu, c'est impeccable, hein. Je rejoins complètement ta description, parce que cet espace de médiation ne devrait pas être l'espace justement de l'expression de ses souffrances personnelles. Parce qu'effectivement, sinon, on ne peut pas faire société comme ça. C'est-à-dire que soit on s'approprie ses propres problématiques personnelles et on essaye de revenir en collectif, dans une posture justement de responsabilité face à ça, soit bah, effectivement le collectif devient le lieu de perdition, en fait, où on se perd complètement dans ses propres souffrances, qu'on agrège les souffrances des autres aux siennes, et qu'on en fait justement ce gloubi-boulga qui fait le lit des mécanismes de la violence, en fait.
Tout à fait. Et pour donner un exemple, pour illustrer ce qu'on est en train de dire, on va avoir, par exemple, nous, dans le cercle restauratif, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment dévoiler ce qui s'y est dit parce qu'il n'y a plus d'enjeu, mais vous allez avoir une personne qui va très frontalement nous reprocher de ne pas venir boire le café chez elle. Une autre personne qui va nous reprocher de ne pas être venue lui souhaiter la bienvenue quand elle était dans ses cartons de déménagement. Une autre personne qui va nous reprocher de ne pas venir aux soirées pizza ou aux soirées anniversaires dans le collectif. Et tout ça, avec tout ce récit-là, ils ont construit que nous étions des personnes méprisantes, peu sociables, qui utilisent leurs cohabitants comme des objets de réalisation d'un projet, mais non pas dans une part humaniste et relationnelle. Donc, à partir de tout petits éléments où on pourrait se dire, quand même, c'est pas grave, c'est pas avec ça qu'ils vont s'appuyer pour évincer les fondateurs de ce projet, eh bien, on a guère plus d'éléments à se mettre sous la dent, parce que c'est effectivement la conjugaison de tous ces ressentis qui vont former le récit et qui vont former le triangle dramatique et qui font qu'on va se retrouver malgré nous à la place de persécuteurs ou de bourreaux sans même avoir les moyens de désamorcer ce jeu, hein, parce que c'est vraiment un mécanisme, hein, comme on ne cesse de le dire, et qui va entraîner la suite.
Oui, parce qu'il faut vraiment considérer que on parle quand même d'exclusion, hein, donc exclure quelqu'un, c'est quand même pas rien. Et quand on voit les motifs qui viennent étayer cette décision qui, pour nous, effectivement, est grave, est importante, c'est du bannissement, hein, exclure, c'est bannir, c'est vraiment quelque chose de fort. Et là, on se dit, mais attends, mais effectivement, il faut qu'il y ait eu une escroquerie, il faut qu'il y ait eu un truc.
Faut qu'ils soient
Faut
dangereux,
que ce
ces
soit
gens, tu vois.
dangereux, faut que ce soit, faut qu'il y ait eu des. Oui, on se dit, il faut vraiment que ce soit quelque chose de. Vraiment, tu as commis des fautes hyper, hyper fortes, hyper, hyper préjudiciables. Tu as. Voilà, il y a vraiment des choses graves qu'on peut te reprocher. Et quand on entend la montagne qui accouche d'une souris, comme tu disais, c'est-à-dire, bah oui, mais vous n'êtes jamais venu boire le café chez moi, ou oui, mais tu comprends. Quand je suis arrivé, tu n'étais pas venu m'accueillir. Enfin, des choses. Ok, d'accord. Je comprends une chose. C'est que tu avais des attentes sur moi, que je n'ai pas honoré, comme tu aurais aimé que je les honore, etc. Bon, très bien. J'entends que pour toi, c'est une souffrance. Ok. Mais à quel endroit ça vient se tricoter avec d'autres récits qui sont du même tonneau, hein, c'est-à-dire du même acabit, où c'est une souffrance finalement assez personnelle de d'une projection affective. Alors oui, mais on vous aime. Alors bah, oui, mais en fait, je souffre de ce que tu viens pas boire le café chez moi, donc sous-entendu, je t'aime. Ah, génial. Donc en fait, tu es en train de me dire que parce que tu m'aimes, tu es en train de me faire la vie, là. C'est ça. Donc vous voyez,
Et cet amour va se transformer assez rapidement en haine.
Bien sûr, c'est-à-dire que. Et encore une fois, là, bon, on est sur notre histoire, mais peu importe, je dirais, parce que on l'a revu cette mécanique-là sous d'autres formes. Ce qui est intéressant, c'est pas notre histoire personnelle, c'est juste que, à travers notre histoire personnelle, vous pouvez comprendre que c'est vraiment des petits détails qui se conjuguent les uns aux autres qui créent un récit qui est juste hallucinant. C'est-à-dire qu'on est dans effectivement une conjugaison pathologique de souffrances pathologiques qui viennent socialement créer une perturbation qui est destructrice.
Je peux donner un autre exemple hein, qui nous éloigne un petit peu de notre cas à nous. Ce qu'on a retrouvé à l'Oasis de Poulard, c'est que une partie de la communauté était prête à exclure une personne qui rit trop fort, qui rote bruyamment, qui ne fait pas attention quand elle rentre parce qu'on a lavé par terre et qu'elle rentre avec ses chaussures, qui a mis, enfin, met la musique trop fort. Ou okay, voilà, ce sont ces raisons-là qui conduiraient au bannissement, en fait, hein.
On a eu un phénomène collectif comme ça qui a commencé à se construire, dans lequel d'ailleurs nous-mêmes à un moment donné avons été limite
Aspiré, ouais.
aspirés, hein, c'est-à-dire que nous-mêmes, même si on avait été entre guillemets vaccinés par notre expérience ardéchoise, eh ben, on ne peut pas dire qu'on a été parfaitement étanche là-dessus, hein. On a vraiment à un moment donné été contaminés parce que nous-mêmes avions des ressentis négatifs personnels en fait, hein, vis-à-vis de cette personne qui effectivement nous pouvait nous agacer de par des comportements qu'on
Ou qui met pas
estimait.
les formes quand elle parle, etc. Donc quelqu'un qui va être vécu comme désagréable ou rustre dans le collectif et il peut y avoir toute cette construction dont on vient de parler qui se met en place autour de sa présence.
Et là, c'est vrai qu'à un moment donné, nous, heureusement, je dirais que notre expérience, justement, était là pour nous montrer qu'on était rentré dedans, hein, quelque part, et où on a tout de suite stoppé ça. C'est-à-dire qu'en se disant, non, mais attends, on est en train de reproduire exactement ce qu'on a vécu en Ardèche, donc il n'est pas question. Et c'est là, qu'on a vraiment pris le taureau par les cornes d'un point de vue, d'une autre forme de cohésion sociale, en fait, de se dire, on ne va pas exclure qui que ce soit sur des motifs aussi relatifs, on va dire. Hein. Bien sûr qu'il y a, alors, il faut quand même considérer un certain préjudice, donc on a quand même fait des choses. On a agi, mais on n'est pas du tout allé construire une image, et on va revenir sur notre mécanisme, hein, puisqu'après on va voir qu'il y a d'autres étapes, hein, que là, on s'en était arrêté à l'étape 4 des négociations, médiation, etc. Et on va voir que derrière, justement, on aboutit à l'exclusion, et nous, on s'est arrêté là, en fait.
Il y a
C'est-à-dire
une
qu'on. Voilà,
radicalisation à l'étape
nous,
5.
voilà, à l'étape 5, il y a une radicalisation qui. Parce que les médiations n'aboutissent pas, et c'est là où nous, si vous voulez, quand on a senti ça, on a dit, ouh là 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 là, on arrête les frais. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller plus loin dans la radicalisation parce qu'il est hors de question de décider d'exclure qui que ce soit pour des motifs qui ne sont pas justement gravissimes en termes de. Donc, comment on va faire pour intégrer cette personne avec, entre guillemets, ces façons d'être, etc., qui peuvent être gênantes. Donc comment on fait, comment on parle, quel mot on met dessus, et finalement, on va s'apercevoir qu'il y a d'autres voies que de s'agglomérer en un seul corps, un seul ego collectif, qui va finalement aller au front, revendiquer, déshumaniser et exclure quelqu'un. Parce qu'en fait, ça, c'est juste pas possible d'un point de vue, justement, des valeurs qu'on prétend incarner, hein.
Alors, consciemment ou inconsciemment, l'étape 4 des négociations crée une ouverture, à savoir on se réassoit tous ensemble pour essayer de partager nos vécus et de voir si on trouve des solutions. En tout cas, je pense qu'il y a quand même des personnes de bonne foi et avec une intention sincère à ce niveau-là. Tout le monde n'est pas pris avec la même intensité dans le rouage, mais la phase 5, c'est vraiment la porte qui se referme. C'est. La partie du groupe qui a déclenché ce processus commence à revendiquer une issue.
Oui, parce que le prétexte, c'est vraiment qu'on a fait nos meilleurs efforts, on est allé en médiation, ça n'a rien donné, ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois que le week-end on fait des choses, on paye des gens pour venir faire les médiateurs, etc. Donc effectivement, il y a une vraie
Il y
expérience
a une
de.
fatigue souvent
Et il y a
aussi.
une fatigue. Donc en fait, à ce moment-là, il y a aussi du coup une espèce de colère comme ça qui peut s'instiller dans le groupe en tout entier en disant bon, maintenant faut que ça
Il
maintenant
faut que ça
moi
cesse.
j'en peux plus en fait voilà tout le monde est là en disant moi j'en peux plus
Il faut que ça
on
s'arrête.
n'en peut plus il faut que ça s'arrête voilà. Et là du coup comme on s'est mis dans un état aussi du coup de souffrance hein, collective hein, donc c'est aussi la souffrance collective qui devient assez forte et assez intolérable qui génère du coup des justifications ensuite c'est-à-dire qu'on va au nom de cette souffrance-là. Comme il faut que ça s'arrête à tout prix, il faut que ça s'arrête à tout prix. Et là, du coup, ben, l'autre en face qui a été identifié comme étant à l'origine de cette souffrance, hein, et l'origine du coup de l'avortement même de la médiation, enfin de tout ce qu'on peut imaginer qui a déjà eu lieu, à ce moment-là, en fait, il est tellement pas dans nos valeurs, il est tellement pas dans notre façon d'être, et il nous fait tellement violence, il nous fait tellement souffrir que on commence à lui ôter même le droit et de parler et d'être présent en réunion, etc. Donc ça veut dire qu'on commence à le déshumaniser.
C'est ça. Et donc cette étape de la déshumanisation, c'est l'étape où on va couper court au dialogue, on va arrêter de parler,
Voilà.
on va arrêter d'amener les uns et les autres des arguments pour dire que notre point de vue est le bon ou qu'on a raison de penser ce qu'on pense.
Donc ça veut dire concrètement, c'est des personnes à qui, enfin, il y a un choix collectif de ne plus communiquer,
C'est ça.
de ne plus parler à la personne, de l'éviter. On a eu des cas de figure où la personne elle arrive en réunion et les gens disent, bah, tant que cette personne est en réunion,
Je m'en
moi
vais.
je voilà où je m'en vais. Donc on se retrouve avec des réunions où en fait la personne qui arrive fait partir toutes les autres.
Tous les espaces de concertation sont sabotés, en fait. Il y a plus d'échanges constructifs possibles.
Voilà, donc là, le simple fait d'exister n'est pas reconnu comme étant possible. Donc, la parole, n'importe quel comportement, n'importe quel acte n'est pas possible. Voilà.
Et c'est pour ça qu'on parle de déshumanisation, parce que le propre de l'humain, c'est quand même d'être ensemble, de socialiser, d'être en relation, d'acquérir de l'affection, etc. Et tout ça disparaît, et c'est extrêmement violent à vivre pour la personne qui est cible de cette manifestation-là.
Voilà.
évidemment.
Donc ça, c'est vraiment l'étape 6, la déshumanisation, qui va prendre aussi un petit temps. Hein, et ça, c'est marrant parce que pour avoir aussi accompagné d'autres groupes, c'est une étape qu'on retrouve aussi de manière récurrente. Hein, c'est-à-dire des gens à qui on ne parle plus.
Nous avons connu aussi dans un même lieu qui de tout petit, des gens qui ne nous disent pas bonjour.
Ah oui, bien sûr, oui, tout
Voilà.
à fait.
Donc on devient transparent, on n'existe plus, on peut se sentir comme un toxique ou comme un parasite dans le lieu parce que c'est ce qu'on va nous refléter.
C'est-à-dire que là, on a vraiment une étape qui justifie la violence ouverte, mais qui est justifiée pleinement par la somme des souffrances supposées qu'on fait subir aux autres. Hein. C'est-à-dire que le récit est tellement structuré, les efforts ont tellement été bien accomplis, on va dire, hein, par rapport à toute l'étape des médiations, etc. L'échec a tellement été cuisant, hein, de ne pas y arriver. Et du coup, l'énergie étant tellement voilà, basse et épuisée comme ça, bah, qu'effectivement, là, c'est la porte ouverte, en fait. Ça ouvre la porte à toutes les justifications qui sont liées d'autant plus fortement au fait qu'on a déshumanisé la personne. Donc, quelqu'un qui est devenu un objet, bah, il n'y a pas de problème. Hein, on
Un
peut...
objet ou un grand malade, hein, parce que c'est aussi le moment où on va faire des diagnostics sauvages de pervers narcissique, psychotique ou je ne sais quoi. Et ça va fuser aussi. C'est assez récurrent dans les situations de conflit que la personne qui est en train de se faire bannir, eh bien, est en train aussi de se faire diagnostiquer par le groupe.
Voilà. Donc là, on a vraiment fait toutes les étapes, c'est-à-dire petit 1 les apartés, le récit en 2, en 3 la victimisation, le triangle, la mise en place du triangle dramatique, en 4 les négociations, vraiment médiation, cercle restauratif, etc., qui n'aboutissent pas, qui arrivent du coup à un espèce d'épuisement dans lequel justement se justifient certaines revendications qui sont liées au sentiment d'impuissance et où là on va vraiment s'organiser pour en découdre en fait, puisque la bonne méthode, enfin la méthode pacifique entre guillemets n'aurait pas marché. L'une des grandes stratégies pour ça, c'est vraiment la déshumanisation, c'est de faire de l'autre quelqu'un qui n'est plus digne d'être ni parmi nous, ni digne de relation, ni digne de considération, ni digne du moindre savoir-vivre, en fait. Et à partir de là, du coup, on en arrive à la dernière étape, c'est la neutralisation. C'est-à-dire que l'étape numéro 7, c'est vraiment, ben, ça y est, la personne, là, l'étau s'est tellement resserré autour d'elle qu'on peut complètement, parfaitement justifier l'exclusion dans la mesure où elle n'a plus aucun droit. On ne lui reconnaît plus aucun droit, en fait, de cité, de tout. On lui a retiré tous ses droits, en fait.
Nous, au moment de notre départ, les habitants qui étaient dans cette lutte avaient affiché que nous étions sans droit ni titre. Donc, vous êtes sans droit ni titre. Donc, ça, c'était vraiment la grande formule qui permettait de justifier que nous n'avions plus rien à faire sur le lieu.
Le gros argument, oui, c'est ça. Et ça, c'est vraiment le pendant de cette mécanique-là, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie humaine dont on vient de parler là, des comportements, etc. Mais derrière, attention, il y a des actes. Hein. C'est-à-dire que comme on sait très bien qu'on ne peut pas exclure des gens sans motif réel et sérieux, parce que ces personnes pourraient se rebiffer, se rebeller à juste titre, ben derrière, il est très possible de construire les conditions d'une exclusion, d'une expulsion juridiquement fondée. Hein. Et c'est ce qui nous est arrivé.
Une exclusion, c'est toujours extrêmement violent pour celui qui est exclu, quoi qu'on en dise. Nous vous invitons vraiment à faire la différence entre ce que c'est qu'une séparation et ce que c'est qu'une exclusion. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'un processus sain, il peut mener à une séparation. Et même peut-être on pourrait la célébrer, cette séparation, en se disant bah, chacun retrouve sa route, il peut y avoir un effet de soulagement, de gratitude, d'aventure partagée, etc. Donc une séparation, c'est tout à fait, ça peut être tout à fait positif. Une exclusion, ça veut dire que quelque part, on s'est tous perdus en route, on a perdu la connexion à un moment donné, et on n'a pas su faire valoir les besoins qui, eux, sont légitimes de part et d'autre, d'une manière constructive, mais plutôt d'une manière destructive. Et ça, on le voit aussi parce que dans les projets qui sont autour de nous et qui ont traversé des conflits durs comme celui qu'on vient de vous décrire, ou nous-mêmes, hein, au Hameau des Buis, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est partie en même temps que les personnes qui ont été bannies. En
Parce
tout cas,
que...
ça laisse des traces. L'exclusion est une violence. Donc ça veut dire que le groupe entier a participé à des actes de violence. Et à partir de là, c'est difficile de ne pas garder de séquelles. C'est perturbant, de toute façon. Et en plus, il y a autre chose, c'est que le plus souvent, lorsque la rencontre avec l'autre mène à ce type de difficulté, tel qu'on vient de vous le décrire en cette étape, ça veut dire aussi qu'il y a eu un jeu de miroir et que ce que la personne, le révélateur, renvoie individuellement ou collectivement aux autres, n'a pas été vu, n'a pas été compris. Et finalement, il va servir d'exutoire, on pourrait dire de bouc émissaire, on pourrait dire qu'il ou elle est instrumentalisé quelque part par un inconscient collectif qui va s'agréger et qui va rendre impossible l'accès à des désaccords qui soient féconds. Parce que oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des questions. Il y a plein de questions qui se posent dans un groupe, évidemment, encore plus que dans un couple et encore plus que peut-être lorsqu'on est seul à gérer son patrimoine ou sa petite ferme, etc. Ça ne va pas poser les mêmes questions. Donc, à partir du moment où on est dans un collectif, évidemment qu'il y a mille et une questions sur mille et un thèmes qui vont être activés en permanence. Et c'est pour ça qu'une bonne gouvernance avec des bons espaces de discussion où chacun peut déposer ses tensions, c'est fondamental. Et peut-être aussi insuffisant lorsque les questions qui se posent vont toucher très profondément à des traumas, en fait, hein, parce que souvent on va retrouver des traumatismes dont un qu'on a beaucoup cité au travers de ces podcasts, parce que c'est vraiment celui que nous a suggéré Charles Rogemann en premier, c'était le rapport souffrant à l'autorité, parce que nous avons tous des traumas de relations dominant-dominées, et que si on ne les conscientise pas, ou si on ne profite pas de ce qui se passe dans notre collectif pour en faire une opportunité de visibiliser ces traumatismes, en fait, eh bien, c'est exactement le type d'enchaînement malheureux qui peut se déployer dans le groupe.
Ouais, je rajouterais juste, puisque tu parlais du rapport souffrant à l'autorité, qui est quand même une des causes importantes, il y a aussi l'idéalisation de soi et l'idéalisation du groupe. Ça, c'est vraiment aussi, enfin moi j'ai retenu ça aussi de la même interview qu'on a fait avec Charles. C'était vraiment de sentir que bah, nous, on est du côté du bien. Et que ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de penser qu'on est du côté du bien. Parce que du coup, ça vient faire le lit aussi de cette... grande, grande problématique que rencontrent la plupart des collectifs. Hein. Voilà. Et nous, on a perdu cette illusion-là, et Dieu merci, on a perdu cette illusion-là. Donc, nous, enfin, on vous invite vraiment à perdre vos illusions quelque part dans ces histoires de récits conflictuels, parce que le fait de ne plus croire qu'on est du côté du bien, de ne plus projeter son papa ou sa maman dès qu'il s'agit... d'avoir un interlocuteur qui pourrait être supposément dans un grade ou une responsabilité supérieure à la sienne, etc. Ben, en fait, ça vient déjà poser la question du travail sur soi. Ça vient poser la question de comment moi je me situe intimement dans ces situations-là et comment je peux repérer à l'intérieur de moi des mécanismes qui vont soit faire le lit de cette violence qu'on vient de décrire dans ce podcast, soit au contraire être une opportunité de voir vraiment les choses et de pouvoir évoluer avec les autres. Et c'est là que ça devient extrêmement fertile, précieux et très 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 constructif.
Peut-être aussi pour pas laisser les auditeurs dans le trouble et un peu la fatalité de ce mécanisme qui est connu. Les trois clés principales pour éviter ce mécanisme-là, c'est effectivement de poser dès le départ que nous n'avons pas de processus d'exclusion. Donc nous ne pratiquons pas l'exclusion, sauf pour les cas gravissimes, hein, d'êtres qui seraient hors la loi ou qui seraient ingérables. La deuxième chose, c'est de se donner du temps. Et ça, le temps, c'est extrêmement précieux. C'est-à-dire, oui, ça va pas avec mon voisin. Je suis activée, il est activé. nous sommes activés, il y a des choses qui sont difficiles. Eh bien, plutôt que de me jeter sur les autres voisins pour aller déverser toutes mes émotions négatives à propos de ce que je vis ou de ce que le projet me fait vivre, eh bien, je me donne du temps. C'est-à-dire vraiment du temps de recueillement, du temps de recul, du temps pour juste laisser passer la vie sur ce qui se passe et lui donner de l'air, lui donner du mouvement.
Mais quand on parle de temps, ça peut être un an, hein.
Ah, mais c'est
C'est
oui,
pas
ça
un
peut être des temps
mois, hein.
longs. Ça peut être des
Ça peut
temps
être
longs.
du temps long. Et ça, c'est extrêmement précieux de vraiment choisir délibérément. Parce que ne pas exclure, c'est choisir de prendre du temps, en fait.
C'est
C'est
ça.
que automatiquement, quand on a décidé de ne pas se radicaliser dans des formes comme ça de pratiques ultra-violentes, finalement, de bannissement, alors il nous reste le temps. Et le temps, ça va être vraiment un juge de paix, c'est-à-dire que on a pu remarquer qu'en laissant du temps comme ça, alors un an de je te dis pas bonjour, c'est long, mais c'est vraiment super intéressant.
Bon, ça, c'est un truc qu'on a pu vivre avec un ado, par exemple, mais pas forcément avec.
Oui, mais peu importe,
Mais ça peut être entre adultes
ça peut
aussi.
être
Et
entre
puis,
adultes,
bon, c'est pas dangereux,
mais c'est
hein.
pas dangereux.
Personne va mourir parce que il manque un bonjour.
Et ben c'est ça, et ben c'est ça, c'est-à-dire que l'idée c'est de se dire ok, je vis avec. D'ailleurs, ça c'était Issa Padovani qui avait cette petite expression quand je me souviens, quelqu'un venait la voir et puis ça allait pas, et puis il me dit alors comment ça va? Ah ben non, ça va pas. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais pour ça? Ben rien, je fais rien. Mais comment ça tu fais rien? Si ça va pas, faut que tu fasses quelque chose. Ben non, je reste un peu avec. Ben, ça résume un petit peu ça à l'échelle de notre oasis. On a décidé de rester avec ce malaise, de rester avec ce problème non résolu. Mais de rester avec, de voir ce que ça nous fait vraiment, et de pas en faire justement l'intolérable, parce qu'en fait, comme tu le dis, Sophie, ben on n'était pas en danger, il n'y avait pas mort d'homme, il n'y avait
C'est
pas
ça.
de violence
Par contre, il y avait
physique.
des choses importantes à préserver dans nos histoires. Une oasis, c'est important de la préserver. Une école, c'est important de la préserver. Les enfants, c'est important de les préserver. Donc, il y a des choses plus importantes que oui, quelqu'un qui dit pas bonjour, quoi.
C'est ça. Et que ça ne veut pas dire qu'il fallait ne pas s'occuper de ça, mais c'était d'abord en se laissant vraiment toute la capacité que chacun fasse son chemin. Et parce qu'à cet endroit-là, tout le monde est concerné,
Mais de la confiance à cet endroit-là.
et mettre de la confiance et de se dire, ok, le temps va passer, et on fait confiance à la vie, on fait confiance aux situations de vie qui vont à un moment donné créer des opportunités différentes si les intentions, c'est quand même justement de s'en sortir. Parce qu'effectivement, je crois que ce qui nous relie dans cette histoire, et c'est là où effectivement ça devient sympa, c'est que quelque part, même les personnes qui sont vraiment engagées, très stimulées dans le conflit, etc., si au départ elles sont là pour les mêmes intentions, pour vraiment quelque chose de constructif, etc., ben, elles n'ont pas lâché ça, elles l'ont toujours en elles. Donc on peut faire confiance, et c'est ça aussi, se laisser du temps, c'est de faire confiance que cette part-là existe, et que si nous on fait le travail de patience, de se reconnecter à soi, à sa tranquillité intérieure, à cette capacité de vivre
Et
tranquillement
de se
sans
remettre en
avoir
question
besoin,
aussi.
se remettre en question bien sûr, et d'arriver à créer les conditions d'une cohabitation, pour le coup, qui se pacifie de jour en jour, et eh bien effectivement viennent émerger des situations de vie qui deviennent acceptables dans une forme de paix retrouvée qui n'occulte pas ce qui a pu se passer, mais qui crée des conditions. En tout cas, moi aujourd'hui, mon point de vue, c'est ça, c'est que l'avenir des oasis, pour moi, c'est créer des conditions comme ça, d'une paix durable qui est sur le temps long.
Et qui nous invite à repousser nos limites. Parce que, en fait, quand on rentre dans l'étape 1 des apartés des mécanismes du conflit, ben, on se met tout de suite enfin, on est en train de construire une porte blindée dès le départ, quoi. C'est-à-dire que, on ne va pas ch chercher à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce que ça me fait vraiment, cette personne? On ne reste pas avec soi. On va tout de suite, sur la place publique, mener un combat, quoi.
C'est ça.
Et l'idée là, c'est vraiment, et c'était la troisième clé dont je voulais parler, c'était vraiment la connaissance de soi et reprendre à soi. Donc c'est ce pilier de l'intimité aussi qu'on a posé dès le départ à l'Oasis de Poulard. C'est vraiment, allez, je retourne vers moi, je retourne dans ma grotte un peu pour digérer, processer ce qui m'arrive là. C'est que l'autre m'insupporte. j'ai beaucoup de mal avec ses comportements, ou je me sens déstabilisée, je me sens en insécurité, etc. Mais qu'est-ce que je peux faire de ça, moi? Plutôt que d'aller dire à tous mes partenaires ou à ceux qui veulent se rallier à ma cause, hé les gars, on va mener un combat ensemble, ben non. C'est plutôt retourner vers soi et dire, ben, qu'est-ce que je peux faire de ça, moi, dans mes valeurs humanistes, dans mes valeurs de vérité, dans mes valeurs de souveraineté. Voilà, qu'est-ce que j'en fais pour ne pas abîmer le groupe avec ça, mais au contraire, que ça amène de la bonification au fond. Parce que nous, ce que ça nous a permis de dire, allez, on ne rentre plus dans ce mécanisme, mais au contraire, on va rester tranquille avec ça et on va se donner du temps, ben, ça nous a permis de dépasser des limites qu'on s'était mises malgré nous autrefois, avec la croyance que bah, dès qu'on a un problème avec quelqu'un, bah, faut monter au créneau, aller à l'assaut de ce problème en frontal, en disant à quel point on avait raison de le voir comme un problème et que nos arguments et nos valeurs venaient soutenir ce combat. Donc, la troisième clé, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce retour à soi et de pouvoir avoir une bonne connaissance de soi qui nous permet de voir, ah ben là, oui, quand l'autre fait ça ou quand je vis ça, ça vient appuyer sur ce qui est, sur cette fragilité-là chez moi ou sur cette croyance ou cette blessure.
Du coup, on va aussi vous mettre le schéma des mécanismes du conflit sans issue, les 7 étapes dont on vous a parlé tout au long de ce podcast, dans les descriptions des ressources, hein, les ressources qui sont sur le site. Comme ça, vous aurez vraiment le petit support qui va bien, qui peut vous permettre aussi de garder une trace de cet apport-là et potentiellement de vous en servir.
Merci pour votre écoute et à bientôt.
Merci, au revoir.